Zizi présente La Chambre des dupes de Camille Pascal. Lu par Vincent Violette. La révolution est certaine dans cet état-ci. Il s'écroule par le fondement. Il n'y a plus qu'à se détacher de sa patrie et à se préparer à passer sous d'autres maîtres et sous quelque autre forme de gouvernement. Marquis d'Argenson, le 30 juillet 1743. In Journal, tome 4. Vous avez bien raison de dire qu'il serait joli de faire revivre la journée des dupes. Pour moi, je n'en doute pas. C'est justement de même un jeudi. Mais il faut de la patience. Et il est vrai qu'il en faut beaucoup. Fragment d'une lettre de la duchesse de Châteauroux au duc de Richelieu. Prologue. Château de Versailles, vendredi 8 septembre 1741. Le masque de la mort intriguait toujours le roi. Mais le voir se poser ainsi sur le visage de sa maîtresse l'affligeait sincèrement, car Sa Majesté n'aimait pas souffrir. Au sortir du grand couvert, dont la durée lui fut un supplice, l'amant s'était aussitôt substitué au monarque, et les ordres distribués pour que son souper soit servi au pied du lit de la pauvre malade, installée par commodité dans le bel appartement du grand aumônier de France, le cardinal de Rohan Soubise. C'est là qu'une semaine plus tôt, la favorite avait donné naissance à un enfant mâle qui ne devait rien à son mari, le marquis de Vintimille, neveu de Monseigneur l'archevêque de Paris. Tout cela accablait de bien des ridicules ces princes de l'Église, mais le roi s'en moquait. L'appartement situé au premier étage de l'aile neuve jouissait d'une vue magnifique sur les jardins et offrait l'avantage d'être de plein pied avec le salon de la chapelle. Au sortir de la messe, il suffisait à Sa Majesté de quitter sa tribune pour se rendre au chevet de celle qu'il aimait, malgré son peu de beauté. Une allure de grenadier et l'odeur forte des femmes au goût sait fin. Le roi ne remarquait rien de ses petits défauts. Pas plus qu'il ne voyait la multitude de boutons gros comme des grains de millet qui, depuis l'accouchement, couvraient le front, les bras et la gorge de sa maîtresse. Il ne voyait que l'amour, ses habitudes et le chagrin de les perdre bientôt. Dès que le roi eut pénétré dans la chambre, tout se figea. Aucun bruit ne parvenait des jardins où les fontaines étaient condamnées au silence depuis plusieurs jours pour ne pas troubler le repos de l'accouchée. Sa Majesté exigea au surplus que l'on répande du fumier sur le haut de la rampe qui montait à la chapelle jusqu'en bas, afin d'amortir le fracas des équipages. Aussitôt, l'ordre courut les corridors et les escaliers pour parvenir au gouverneur du château. Alors la cour comprit, retint son souffle, et chacun se composa un visage propre à refléter les tourments du monarque. Tandis que les tombereaux de fumier quittaient la grande écurie, le roi échangeait quelques mots avec Monsieur de la Péronie, son premier chirurgien, auquel était confié le soin de la femme et de l'enfant depuis l'accouchement. Loin de baisser, la fièvre redoublait et le pouls faiblissait. Silva et Sénac, médecins consultants appelés en renfort auprès de la malheureuse, opinait d'un air de faculté à chaque mot prononcé par la Péronie qui régnait en maître sur la santé du roi. Les urines surtout inquiétaient ces messieurs à rabat. Elles étaient mousseuses comme du vin de champagne et cela n'augurait rien de bon pour la suite. Il fallait immédiatement saigner la malade et la saigner aux pieds. Seule la grande saignée aux pieds permettrait d'évacuer les humeurs dont l'accumulation provoquait cette forte fièvre et les violentes convulsions qui secouaient la jeune accouchée comme un pantin de la foire Saint-Germain. Le roi y consentit et, malgré son dégoût, souhaita assister à l'opération. Au premier coup de lancette, un jet de sang pâle vint teinter de rose l'éclat des grands bassins d'argent aux armes des maillinelles que les femmes de chambre déposaient ensuite sur le marbre d'une commode placée entre les deux hautes croisées pour permettre aux médecins d'y tremper leurs doigts et juger de son goût et de sa consistance. Dans le fond de l'alcôve, une femme sans ajustement, à peine vêtue d'un jupon blanc et d'un simple manteau de lit, le regard éperdu et la prière aux lèvres, épongeait avec soin le front de sa sœur qui se plaignait d'affreuses douleurs aux tempes et suppliait que l'on chasse les ombres qu'elle avait toujours devant les yeux. Louise de Mailly veillait jour et nuit depuis plus d'une semaine sur elle, qu'il avait autrefois chassée du lit du roi pour s'y coucher à sa place. Elle était prête à tout pardonner à cette sœur ingrate, pourvu qu'elle survive. C'est elle encore qui avait demandé au roi de faire taire les fontaines et obtenu que l'on transporte l'enfant de sa sœur dans un entresol afin que ses vagissements ne fatiguent plus la malade. Plusieurs jours sans sommeil lui gâchaient sévèrement le teint, mais elle gardait cet air d'élégance et de bonté qui, quelques années plus tôt, était parvenu à vaincre la timidité et les scrupules du jeune roi de France. Malgré la profondeur d'une bien triste nuit, ce reste de beauté, servi par le négligé de ses effets et le désordre d'une chevelure, rappela à Louis XV des moments qu'il croyait oubliés. Leurs regards se croisèrent par-dessus la perruque courte des chirurgiens qui s'acharnaient sur le pied de celle qui les avait séparés l'un de l'autre, quand un râle les ramena aux soins qu'ils cherchaient maladroitement à lui prodiguer. Après la saignée, un remue-ménage annonça le souper du roi, que des valets bleus apportaient sous la surveillance du duc de Villeroy, capitaine des gardes, et ils dressèrent aussitôt une table face au lit. Le duc de Gèvres, premier gentilhomme de la chambre, qui devançait le brancard sur lequel étaient déposés les plats et les pots à œil, fit ensuite son office et servit sa majesté. Les parfums et la poudre dont cet homme abusait toujours éloignèrent pour un moment l'odeur de la mort. Et le roi mangea un peu de tous les plats en échangeant même quelques mots avec son vieil ami, le marquis de Meuse, qu'il gardait toujours en vis-à-vis lorsque ses soirées l'ennuyaient. Vers 2 heures du matin, enfin, la fièvre tomba. Les médecins se félicitèrent de leur science dans un latin d'amphithéâtre et rassurèrent le roi. La nuit serait bonne, car la marquise, délivrée de la fièvre, se reposerait bientôt et reprendrait des forces. Sa majesté pouvait donc aller se coucher. Ils veilleraient eux-mêmes sur la malade. Louis XV y consentit, mais Louise de Mailly refusait obstinément de quitter sa sœur. Pourtant, sur les coups de 4 heures, et puisque la fièvre paraissait vraiment endormie, elle finit par se rendre aux raisons de Monsieur de la Péronie et du marquis de Meuse resté à ses côtés sur l'ordre du roi. Les deux hommes prirent même la peine de la raccompagner jusqu'au petit appartement dont Madame de Conflans avait obligeamment cédé l'usage à l'ami du roi dès les premières douleurs de la marquise de Vintimille, de façon à lui éviter d'emprunter les escaliers. Les plus grands médecins du royaume de France se pressaient à son chevet. La patiente ne risquait donc rien. Pourtant, à peine les femmes de chambre avaient-elles couché Louise de Mailly, que des hurlements de douleur roulèrent leur écho à travers le silence de la grande galerie de pierre. La maréchale de Villars, dame du palais de la reine dont l'appartement faisait presque face à celui de la marquise de Vintimille, crut que l'on égorgeait un cochon devant sa porte et sonna ses gens pour qu'ils le fassent taire. En quelques instants, toute l'aile du château fut en révolution. Les médecins dressés sur des lits de sangle cherchaient à remettre leurs perruques de crin, quand les femmes de chambre couraient déjà en chemise au secours de leur maîtresse. Courbée par d'atroces douleurs d'entrailles, la malade les suppliait de trouver un prêtre, car elle se voyait mourir. Réveillée en sursaut par ses valets, la pauvre Mailly accourut éperdue et affolée. Lorsque l'on tira les rideaux du lit, elle ne put retenir un cri d'effroi à la vue de sa sœur dont le visage, qui n'avait jamais été particulièrement gracieux malgré un regard effronté, se trouvait atrocement déformé par les convulsions. Dans un souffle, la Vintimille implora le Saint-Sacrement. Louise exigea que l'on fasse prévenir le maître, mais la Péronie s'y refusa. Le sommeil du roi était sacré, et jamais le premier gentilhomme de la chambre n'autoriserait que l'on dérange sa majesté pour des douleurs d'accoucher. Alors Mailly, en chemise, mais sans bas et simplement chaussée de mules de taffetas gris, quitta l'appartement, appelant à l'aide et à Dieu.